Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
On a tous quelque chose en nous de 68. La suite, nous poursuivons ce soir notre tour du monde des 68 dans le monde et c'est au Biafra que nous allons, la guerre oubliée. Ce petit bout de Nigeria qui entre 67 et 70 a parlé de pétrole, a parlé d'Afrique postcoloniale, a parlé d'ingérence humanitaire, a parlé de chaos humanitaire vu aux 20h aussi. On y vient ensemble avec nos invités, c'est dans moins d'une minute. Ce soir aussi, Florence Paracolo sous les radars et du football féminin en Somalie et des échanges de chanteuses entre les deux Corées. 18h55, c'est l'édito d'Anthony Bélanger au Pérou ce soir qui vient de perdre son président. Le monde est vaste. Ce soir, il est surtout au sud du Nigeria, au sud-est. Et on a tout notre temps. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La voix du Biafra annonce que 15 personnes ont été tuées hier au cours d'un raid aérien sur une ville biafraise. Des dizaines de maisons ont été endommagées. Durant la semaine écoulée, plus de 75 Biafrais ont été tués par l'aviation nigériane. Des dépêches telles que celle-ci, diffusées cet après-midi par l'agence France Presse, nous en recevons presque tous les jours depuis que, le 30 mai 1967, le colonel Ojukwu a proclamé la sécession du Biafra de la Fédération du Nigeria. Or, si le Vietnam fait tous les jours les gros titres de la presse, si le conflit arabo-israélien continue de soulever les passions, cette guerre terrible du Nigeria qui aurait déjà fait plus de 50 000 morts, passe quasi inaperçue. C'est pourquoi nous allons essayer d'en faire le point ce soir.
Et nous aussi, on va justement essayer d'en faire le point ce soir. C'est évidemment les actualités de l'époque qu'on entendait à l'instant. Cette guerre du Biafra, donc pour cela, la remettre en tête un petit peu. On est entre 67 et 70. Et en 68, au moment où nous prenons ce conflit ce soir, le blocus en sert déjà une partie de cette petite province, donc à l'est du Nigeria. Ce qui nous intéresse pour plein de raisons, c'est un marqueur dans le temps. C'est une Afrique postcoloniale, je le disais aussi. Puis c'est aussi le premier chaos humanitaire que la presse a pu emmener dans les familles à 20h au moment du journal. Bonsoir Joël Calmette.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle L'histoire secrète du Biafra. Vous terminez une thèse sur le sujet.
Exactement.
Et bonsoir Olivier Todd. Vous faites partie de ceux qui ont couvert cette guerre. Vous avez ramené des images, ramené des photos pour la BBC notamment. Vous travaillez pour l'Obs et vous avez vu ce qui se passait de vos yeux. Joël Calmette, début de la guerre, donc 67, le Biafra, c'est une petite province du Sud-Est, je le disais, qui a décidé de faire sécession. La riposte du Nigeria est immédiate. Est-ce qu'on peut prendre une photo de ce début 1968? Où on en est à ce moment-là?
Début 1968, la guerre a commencé entre la province sud-est, donc le Biafra, que vous venez d'évoquer, là, qui a fait sécession, et l'État central, fédéral. Une guerre qui commence assez faiblement. Il y a assez peu de combattants, en fait. Il y a 5 000 militaires du côté biafrais, 15 000 du côté nigérian. Donc c'est une guerre qui commence à petite échelle. Elle est principalement alimentée par des trafiquants d'armes internationaux qui se jettent sur le pays. Le pays est riche. Les Biafrais sont riches, le Nigeria est riche, et donc il y a du business à faire. Quelques journalistes viennent sur le terrain, et ils vont rendre un petit peu crédible cette sécession. D'abord, ils sont fascinés par le chef de la sécession, le colonel Ojukwu.
On va y venir, ouais.
Et puis les Biafrais fascinent, et ils emportent une victoire militaire en premier en 1967. La guerre semble devoir s'écouler en très peu de jours, finalement, et la victoire est aux mains des Biafrais. Simplement, les Nigérians vont réagir. Début 68, la position est stabilisée. Le Biafra a déjà perdu l'accès à la mer. Et dès le printemps, en fait, en perdant le dernier port sur l'Atlantique, impossible d'alimenter le Biafra, la famine va se développer.
Et alors, pourquoi ce petit bout a décidé de partir assez subitement, vraisemblablement? Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, le Nigeria est un pays extrêmement jeune. L'indépendance, elle date de 1960, 7 ans seulement. Pourquoi cette montée d'adrénaline de la part du Biafra?
Il y a plusieurs facteurs. Les Biafrais, les Igbo, on va dire, d'abord sont principalement...
C'était l'une des ethnies, donc
Groupe culturel au sud-est. Au nord, principalement, c'est la majorité de la population est musulmane. Au sud-ouest, ils sont chrétiens et musulmans. Et au sud-est, ils sont chrétiens et animistes. On va parler de la population biafraise qui va se définir comme chrétienne, principalement.
Mais la raison, le moment épidermique...
Le moment épidermique, c'est à la fois l'organisation du pays, pouvoir fédéral ou pouvoir régional. Et puis, il y a du pétrole qui va naître. Donc, il y a potentiellement les moyens d'être indépendant. La volonté d'être indépendante est antérieure à la découverte du pétrole.
On va venir au pétrole, effectivement, et aux raisons de cette guerre. Vous l'avez un peu évoqué, ce général Ojukwu. Qui est-il qui a fasciné beaucoup de monde par sa culture, par beaucoup de choses, en fait? Qui est ce monsieur?
Ce colonel Ojukwu, c'est le fils de probablement l'homme le plus riche du Biafra. Mmh. Donc un homme qui a une fortune, qui a fait ses études en Angleterre, qui a un master d'histoire, qui ensuite se lance dans une carrière militaire, qui a 34 ans, qui est ambitieux,
tout jeune, ouais.
Et qui a face à lui le chef d'État du Nigeria, général Gowon, qui lui a 32 ans, qui lui est de formation exclusivement militaire. Donc d'un côté un chef de guerre, de l'autre côté un historien avec un parcours militaire. Donc il y a une rivalité des hommes entre eux également.
Olivier Todd, vous l'aviez rencontré ce général?
Très longuement. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup les hommes politiques en général, quelle que soit leur nature, leur couleur. C'est un des rares qui m'est vraiment très très impressionné. D'abord, pas par sa taille, qui est considérable, mais aussi par son assurance. Mmh. Et puis aussi, il faut le dire, il est tellement anglicisé qu'il n'y a aucune difficulté de communication, mmh, quand on sait un peu l'anglais. Et c'est un homme qui donne l'impression churchillienne, sûr de lui-même. Il parle très 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 lentement. Et quand on le rencontre à l'époque, enfin, c'est curieux parce que d'un côté, il y a cette attitude très occidentalisée, très anglicisée. Et puis d'autre côté, avant de le voir, ses gardes vous fouillent et prennent jusqu'à vos limes à ongles.
Oui.
Alors il y a un contraste quand même. Je crois que une des raisons pour lesquelles il y a eu cette guerre, c'est que les Imbo, je ne dis pas tribu, je ne dis pas clan, je dis le groupe, hein, pour éviter les contestations.
Allez-y, monsieur Todd, continuez. Ouais.
Je crois que on ne comprend pas toute l'affaire Biafraise si on ne se rend pas compte qu'il y a un fossé extraordinaire sur le plan culturel. Et alors un homme comme Ojukwu, on le voit immédiatement.
Il paraît qu'on l'appelait le Hamlet. Est-ce que c'est vrai qu'on l'appelait le Hamlet local à cause de sa culture, à cause de son...
Non, on l'appelait H.E., c'est-à-dire His Excellency.
D'accord.
Et ça, de haut en bas de l'échelon. Ça, il n'y a absolument aucun doute.
Et est-ce qu'on est mieux reçu, et j'imagine, vous nous raconterez ça au fur et à mesure, Olivier Todd, mais quand on est journaliste français, par ce monsieur, sachant que le général de Gaulle avait pris parti pour le Biafra, est-ce que le fait d'être français était de toute façon une porte d'entrée particulièrement importante et facile pour rencontrer ce personnage?
Bon, c'était pas très difficile. Moi, je suis entré sur un mensonge, parce que je suis entré, en fait, pour faire un film pour la BBC, mm-hmm, qui n'avait pas le droit d'aller au Biafra, parce que les Biafrais étaient convaincus que la BBC était aux mains du gouvernement anglais. Alors, on a un peu triché. Je ne sais toujours pas si lui se rendait compte de ce qui se passait. Il y avait à l'époque aussi là-bas mon confrère Jean-François Chauvel, et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Tiens, t'es là pour la BBC ?» Je lui ai dit « Écoute, non, tu te calmes. Hein. » Sans ça, moi, je te demande si tu es là pour les services de renseignement français. Alors, on en est resté là, et puis... Mais j'ai été une fois de plus sidéré par la personnalité de Ojukwu. C'est quelqu'un qui aurait dû faire une grande carrière. Je sais même pas s'il est mort ou pas aujourd'hui. Il est mort.
Il est mort.
Il est mort.
Ouais.
J'aimerais qu'on revienne sur les forces en présence. On l'a un petit peu évoqué. Ce jeune Nigeria est soutenu par les Anglais, effectivement, par les Allemands, par les Belges, par les Russes, l'URSS.
Par l'URSS,
à l'époque.
Ouais.
Et le Biafra est soutenu par la France. On est tout seul.
Pas seulement la France. Hein.
Alors. Allez-y, pardon.
Il est situé uniquement par 4 pays africains. La Tanzanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire.
Et le Gabon,
et
peut-être.
Le Gabon.
Voilà. Mais nous, pays occidental, Joël Calmette, on est les seuls là-dedans ou pas?
Non, il y a le Portugal et la France qui aident. Le Portugal, c'est la base arrière pour les Biafrais. C'est là que décollent les avions, les chargements humanitaires, les chargements d'armes. Et puis il y a la France qui, elle, envoie de l'humanitaire et des armes officieusement. Les autres, c'est des appuis diplomatiques que vous venez de citer.
Et là aussi, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, à soutenir le Biafra? Qu'est-ce qu'il y gagne, de Gaulle, à ce moment-là?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une politique bien conduite à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une politique. Il y a différents lobbies qui vont agir. Il y a différentes forces en présence. Il y a certaines personnes qui vont soutenir le Biafra très en amont, pour des raisons idéologiques fortes. Par exemple, bloquer l'islam, bloquer la descente de l'islam vers l'Atlantique. Mmh. D'autres pour aider les chrétiens. la situation va complètement changer au moment où on va découvrir la crise humanitaire. Là, il va y avoir une sorte d'unanimité pour aider les Biafrais, ce qui va autoriser le gouvernement, mais par les affaires étrangères, la défense et les services, par exemple, à monter un pont aérien secret pour alimenter le Biafra.
Mais alors, avant qu'on en arrive là, qu'est-ce qui fait que les Anglais sont d'un côté, nous sommes de l'autre? Est-ce qu'il y a aussi les vieilles rancœurs qui sont en train de monter? Enfin, si on se réfère à la période, on est au moment où le général de Gaulle ne veut pas de la Grande-Bretagne dans le marché commun à l'époque. On est dans cette espèce de rivalité-là. Est-ce que c'est ça aussi qui joue entre ces deux pays-là? Est-ce que le poids politique de la Grande-Bretagne était vraiment une menace au point d'essayer de se mettre en face et de se démarquer, en tout cas?
Il y a toujours ça qui peut, ce fameux complexe de Fashoda, comme on dit, qui peut alimenter certaines énergies contre le Nigeria. C'est plutôt le Nigeria en soi qui fait peur. Le Nigeria, à l'époque, c'est 60 millions d'habitants. On pense au Gabon, c'est 1 million d'habitants à côté. Mm-hmm. C'est pas frontalier, mais disons que certains penseurs de la cause biafraise à Paris, autour de Jacques Foccart, vont penser que le Nigeria pourrait déstabiliser tous les États francophones, jeunes, nouvellement indépendants, qui sont en relation proche de la France. Donc c'est autant pour protéger ces États francophones, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique et le Gabon, que pour attaquer les Anglais au Nigeria.
Et puis aussi pour embêter la Grande-Bretagne. Rappelez-vous qu'à l'époque, on avait un imbécile, pardonnez-moi, on avait quelqu'un d'extraordinairement médiocre comme Premier ministre, c'est-à-dire l'ineffable Coupe de Murville, ce qui est vraiment un personnage un peu grotesque sur la scène politique française. Et lui, il obéissait à ce qu'il croyait être les impulsions du général. On reviendra peut-être dessus là-dessus, j'ai eu un témoignage.
La place de Jacques Foccart là-dedans, l'homme de l'Afrique du général de Gaulle, Joël Calmette, est-ce que c'est vraiment lui qui tire les ficelles et jusqu'à quel point dans le rôle de la France au Biafra?
Il tire en grande partie les ficelles à partir du moment où l'engagement devient officieusement officiel, on va dire presque. Au début, il est également influencé. Au début, il n'est pas pour la sécession du Biafra. Pour une raison simple, c'est que reconnaître l'indépendance du Biafra, c'est changer les frontières africaines. Et qu'il y a une sorte de dogme dans la politique africaine elle-même. C'est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, de façon à éviter qu'une modification de frontières amène des rébellions, des clivages, et des sécessions de différents groupes culturels.
Alors, on voulait pas une balkanisation de l'Afrique, disait-on.
Alors, on est en mai 68, alors que la France est sous les pavés. Une victoire importante pour le Nigeria. Les accès à la mer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont définitivement coupés. Donc, il faut focaliser l'attention du public ailleurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire le public. C'est la guerre de l'opinion publique, la bataille de l'opinion publique qui va se jouer juste après ça.
Jean-Martel, vous êtes en train de préparer votre reportage sur le conflit Nigeria-Biafra. Qu'est-ce que nous entendons là?
Mais en ce moment, nous entendons l'ambiance qui règne dans une salle d'hôpital, l'hôpital de Oumuya, qui est l'un des plus beaux hôpitaux de tout le Biafra, de tout ce qui reste du Biafra. C'est une salle qui est réservée aux enfants. Il y a 20 lits et il y a en ce moment 96 enfants dans ces 20 lits.
Vous savez, moi, je ne l'oublie pas. Mais qu'est-ce qui revient encore dans votre mémoire?
Mon Dieu, je crois qu'il est difficile de dire ce qui revient le plus. Il revient des images atroces, bien sûr, mais enfin, une que je pourrais peut-être vous relater, c'est cette image que nous avons découverte sur la route d'Ikotekpene. Nous revenions d'Ikotekpene, cette ville fantôme, et dans un fossé, sur le bord de la route, nous avons vu un corps. C'était une femme, visiblement, apparemment morte, avec un enfant d'une année et demie à 2 ans dans les bras. En y regardant de plus près, on s'est aperçu que ces deux êtres n'étaient pas morts. On a tâché de trouver quelque chose, lui donner à boire. Elle est revenue à elle et nous l'avons transportée à Aba pour la faire admettre à l'hôpital d'Aba. Ce qui était très difficile quand on nous a dit, vous savez, des cas comme ça, il y en a des milliers, c'est plein, on ne peut plus les accueillir. On a insisté, on trouvait quand même que c'était trop atroce de la laisser comme ça. Finalement, ils ont accepté de la prendre. Une infirmière est allée chercher l'enfant. Et quand elle est retournée pour chercher la mère, celle-ci était morte avec une expression, on ne peut pas dire de satisfaction, mais une certaine détente en tout cas sur son visage.
Le journaliste Jean Martel qui raconte, et c'est vrai Joël Calmette, que chaque journaliste, et on le verra avec vous Olivier Todd dans un instant, qui rentre du Biafra, en rentre transformé comme ce monsieur le raconte à l'instant.
Les journalistes reviennent globalement, journalistes et photographes, militants du Biafra. Militants parce qu'ils sont à la fois séduits par la personnalité des Biafrais, d'Ojoukou, des Biafrais comme on l'a dit, et puis très, très sensibles à toutes ces images d'enfants et de vieillards qui dans un premier temps vont mourir à cause d'un blocus.
Il y a aussi autre chose, c'est ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm généralisé pour les journalistes. La plupart des journalistes qui vont dans les territoires où il y a une guerre ont une sympathie immédiate pour les gens qui se battent. Et si par hasard les gens qui se battent comme les Biafrais semblent être ou sont les David face à des Goliath, alors à ce moment-là, on suit.
Et comment ça se passe dans les rédactions, Olivier Todd, lorsque vous partez, à quel moment vous décidez qu'il faut désormais partir, le moment où il faut aller le couvrir, ça se passe à quel moment?
Non, à aucun moment pour moi, parce que moi j'y suis allé une fois encore, par hasard, j'y étais pour la BBC, pour faire un film, et j'ai demandé à mon rédacteur en chef, Jean Daniel, si je pouvais y aller, il m'a dit oui, mais bien sûr, c'était très avantageux pour l'Observateur.
Jean Daniel de l'Obs, voilà.
Parce que c'était la BBC qui payait, c'est quand même pas des voyages...
Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez, ou bien qu'est-ce qu'on vous montre plutôt, Olivier Todd? A envie de vous montrer quand vous arrivez sur place?
D'abord, on arrive difficilement. On est obligé de passer par le Portugal et puis ensuite d'aller à une île qui s'appelle São Tomé, juste en face. Et là, on prend un avion qui atterrit au Biafra, mais on nous annonce qu'on va atterrir à Enugu, mais en fait, on atterrit sur une route. Simplement une route nationale qui a été découpée en aéroport. Et après, on nous emmène dans des endroits où il n'y a pas grand-chose à voir, sinon, une fois de plus, des blessés, des morts. Et j'avais décidé, moi, avec le réalisateur anglo-allemand qui était avec moi, que nous ne ferions pas ça. Nous mettrions le minimum de morts et de blessés et qu'on essaierait de voir comment une nation essayait d'émerger. Et ça, on l'a dit très clairement. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas filmé des morts et des blessés sans arrêt. Mais on a filmé, par exemple, des cours de justice, très anglicisés, naturellement, le juge avec sa perruque anglaise, et puis en train de condamner à tant de mois de prison un type qui avait eu le malheur d'assassiner l'amant de sa femme. Ou alors, on allait voir comment fonctionnait la poste. Ils ont essayé de faire fonctionner la poste. Toutes ces choses pratiques. Et ça nous a un peu intoxiqués, parce que alors que la plupart des journalistes faisaient de la propagande humanitaire, nous, sans le vouloir, on s'en rend compte aujourd'hui, je m'en rends compte aujourd'hui, on faisait de la propagande pro-biafraise. Aujourd'hui encore, je serais incapable de vous dire jusqu'à quel point on a été ou pas manipulé.
Joël Calmette, j'allais poser la question, qui a été manipulé dans cette histoire-là, quand les journalistes étaient envoyés parce qu'il fallait montrer ces images-là? Est-ce qu'il y avait une grosse part de propagande de part et d'autre, en fait, comme dit Olivier Todd?
Je crois que chacun s'est auto-manipulé. Mmh. Les journalistes y allaient parce qu'il y avait des images assez spectaculaires. C'est l'essor à l'époque du photojournalisme, c'est l'entrée de la télévision dans les foyers. Paris Match tire 1 million d'exemplaires. En un an, il y a plus de 800 sujets, un an et demi, plus de 800 sujet à la télévision. Donc tout le monde veut aller au Biafra. Les voies d'accès sont un peu filtrées évidemment par les services français puis par les soutiens biafrais et puis par le service de propagande biafrais qui est très très bien organisé. Il y a une agence de presse à Genève qui alimente le monde entier sur les informations, qui va forger le mot génocide, qui va dire qu'il y a un génocide au Biafra. C'est les Biafrais qui payent une agence de presse pour communiquer. Et sur place, il y a une direction de la propagande qui, au nom de la sécurité, oriente les journalistes, les endigue de leur bonne foi. Certains s'en seront jamais rendus compte. Mais tout ça est assez bien contrôlé.
Est-ce qu'il y a, y compris de la part de la France, est-ce que les reportages sont facilités par nous, par les autorités françaises? Est-ce que les trajets, les avions, est-ce que tout ça est réellement facilité par les autorités françaises qui ont tout intérêt à montrer ce qui se passe de l'autre côté de cette frontière?
Alors là aussi, c'est les équipes de Focar vont faciliter les voyages des reporters qui vont être pro-Biafra ou pro-Focar. Donc la voie d'accès à ce moment-là, c'est Libreville. Libreville, c'est la base arrière du soutien français, du soutien humanitaire officiel, et la nuit, les avions repartent avec des armes. Donc là, il y a tout un tas d'agents qui contrôlent les allées et venues. Un ambassadeur, Maurice Delaunay, qui par ailleurs a adopté une biafraise, donc le monde n'est pas si simple, qui contrôle l'accès des journalistes français bienvenus pour aller au Biafra.
Voilà, et la suite, on la raconte dans un instant, juste après ce qu'on va écouter là tout de suite, dont le nom m'échappe, mais ça vient tout de suite, c'est Fatoumata Ndiawara qu'on va écouter tout de suite. On viendra aussi, du coup, au rôle des French Doctors, puisque c'est là aussi que ce terme est né et que les histoires d'ingérence humanitaire sont nées aussi.
Ni jarabi ma feganyalo. Il faut absolument relancer, si vous voulez, cette histoire du Biafra. On en a parlé à un moment donné, et un journaliste m'a dit à Libreville, en rentrant après 4 mois, cette chose atroce, le Biafra, ça ne se vend plus. Les bébés folles, oui, mais le Biafra, non. La situation reste toujours dramatique. Le pont aérien fonctionne. Mais vous savez que le pont aérien est difficile parce que c'est un petit aérodrome. Il en faudrait beaucoup plus. Actuellement, au Biafra, il y a 8 millions de personnes. Sur ces 8 millions de personnes, il y a 2 millions d'enfants. Et sur ces 2 millions d'enfants, il y en a 600 000 à 700 000 actuellement atteints de famine, qu'on appelle le clochorcore, et dans un état tout à fait critique. Il faut absolument, actuellement, pour que le Biafra continue à vivre, pour que les enfants continuent à vivre, tous les jours, amener plus de nourriture et plus de médicaments. Et ça, il faut continuer, envoyer par le pont aérien et par la Croix-Rouge française notamment.
L'année 68 dans le monde, c'est le Biafra dont on parle aujourd'hui dans Un jour dans le monde. Et ce qu'on entend à l'instant, c'est Pascal Coletti-Boisviel qui est du CICR à l'époque. Et Joël Calmette, c'est vrai que le rôle des médecins et l'impuissance aussi des médecins fait partie des marqueurs de ce conflit du Biafra. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs donc le rôle des French Doctors, des Kouchner, des Récamiers, etc. Quand on est le CICR, quand on est comme Pascal Coletti-Boisviel, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Il y a des frontières qu'on n'a pas le droit de dépasser?
Globalement, ils sont confinés dans le réduit Biafra, bien évidemment. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a 80 Français qui sont sur place, à peu près 70 Français qui vont se relayer au long de l'intervention. Il y a quelques dizaines d'autres médecins étrangers qui sont là. Ils soignent jour et nuit. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont soigner des milliers de personnes. Il se trouve que on a le témoignage de Max Récamier qui un jour veut aller soigner des enfants, et on lui dit ça, non, c'est pour les journalistes. Il faut ajouter que c'est des enfants qui n'étaient pas guérissables et qui de toute façon allaient mourir. Mais sinon, ils font un travail formidable.
Mais à quel moment les médecins décident de... Parce qu'il y a un silence imposé, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, la Croix-Rouge, c'est pour ça qu'ils avaient le droit d'aller dans tous les pays. Il y a un silence imposé que certains ont voulu briser. C'est bien ce qu'ont fait les équipes autour de Kouchner. À quel moment on décide de briser ce silence-là et de parler réellement de ce qui se passe aussi politiquement au Biafra?
Parce qu'à partir du moment où on est convaincu qu'il y a un génocide. Le génocide, aujourd'hui, il y a eu évidemment la Shoah. On dit qu'il y a eu le Biafra, il y a eu le Rwanda. C'est un mot qui est déjà revenu dans l'opinion. À l'époque, depuis la guerre, on n'avait jamais employé ce mot-là. Et donc, si on est témoin d'un génocide, forcément, on alerte le monde entier par tous les moyens. Donc, c'est ce qui fait qu'ils brisent l'armure, qu'ils brisent ce tabou, ce serment qu'ils avaient signé. Ils se sentent obligés, moralement, d'alerter le monde entier. Et ils le font.
Et est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on dit qu'il y a eu génocide au Biafra, Joël Calmette?
On ne peut pas dire qu'il y a eu un génocide au Biafra. Il y a eu un blocus alimentaire qui a tué des centaines de milliers de personnes. C'est vrai, mais une fois la guerre terminée, les Ibos ne sont pas tués. Et à l'époque, ceux qui étaient pris par les fédéraux et qui étaient, dont le territoire était petit à petit réduit, n'étaient pas exterminés. Il n'y a pas volonté d'exterminer les Ibos.
Je pose la question parce que la question s'est posée, parce que certains ont même utilisé ce terme-là. Et vous le disiez, ils l'ont utilisé sciemment. Il y a même de l'argent qui est venu depuis les États-Unis, depuis un certain nombre d'associations juives aux États-Unis pour venir en aide aux enfants du Biafra, pour ces raisons-là, parce que ces mots-là avaient été prononcés.
Mais tous les gens qui sont sur place ont le sentiment d'assister à un génocide, puisqu'ils ne vont pas de l'autre côté. Ils ne peuvent pas savoir, c'est ce que disait tout à l'heure M. Todd au sujet du syndrome de Stockholm, qui plus est, ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Il y a très peu de reporters qui y vont. Les gens vont filmer les enfants et les mourants. Ils vont pas filmer les fédéraux qui font la guerre de l'autre côté. Personne pratiquement n'y va de l'autre côté. Ou alors c'est l'ennemi, c'est l'anglais qui y va.
Est-ce qu'on dit qu'il y a eu un rôle ambigu à un moment de ces médecins-là, ou effectivement des armes aussi, c'est ce que disaient certains, étaient transportées d'un bout à l'autre de cette frontière ou pas ?
De plus en plus. Enfin, moi j'ai rencontré Kouchner pour la première fois de ma vie au Biafra.
Comme beaucoup de cette génération.
À l'époque où il était lui-même, où il était médecin, où il soignait. Il n'était pas encore ministre des Affaires qui lui était totalement étrangère. Enfin, c'était un médecin qui voulait vraiment faire quelque chose. Mais
restons au Biafra, si vous voulez bien.
Ça se tient parce que Kouchner a joué un rôle extraordinaire à l'époque et d'une façon assez systématique. Son avion arrivait une fois par semaine, chargé non seulement de sucre, de café, de choses du genre, mais d'armes. Et quand on lui disait il y a des armes qui arrivent, il disait ben oui. Et puis alors après, quand on venait à Paris et qu'on en parlait à certaines personnes, elles l'admettaient aussi.
Joël Calmette, c'est aussi l'enjeu de l'époque, en fait. On est en 68 en France, au même moment, MSF va être créé en 1971, donc très peu de temps après. On est aussi dans l'enjeu de l'époque, dans le rôle qu'ont pu jouer ces médecins-là, l'action publique, la fin de l'Empire, l'universalisme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent à ce moment-là.
Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent, et ces jeunes qui partent au Biafra, souvent, ont fait mai 68, qui a échoué à leurs yeux, et ils ont cette cause qui s'offre à eux également. Donc ils sont totalement sincères, totalement enthousiastes, avec des frontières qui sont floues. C'est vrai qu'ils vont évoquer, pour certains à l'époque, l'expression des mercenaires qui vont être les mercenaires de l'humanitaire.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y avait des mercenaires français dans ce...
Oui, il y avait des mercenaires français. Il y en a une cinquantaine envoyés en 1967, beaucoup moins après, mais il y avait des mercenaires français, bien sûr, au Biafra, qui vont être filmés, qui vont être magnifiés. Ils sont du côté du bien. Presque pour la première fois, l'action de la France en Afrique à l'époque secrète, elle est du côté du bien.
C'est ce qu'ils disaient, les mercenaires, quand on les voyait. Ils avaient peur, mais ils étaient contents de faire ce qu'ils appelaient d'être du bon côté. Mais je crois qu'on magnifie le côté humanitaire. Hein. Je pense que c'est très très bien que Calmette, ici présent, fasse un doctorat tant d'années après, parce que ça va pouvoir clarifier certaines choses. Il faut de la distance hein, pour comprendre certains événements. Et au Biafra, les choses ont été très, 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 très mélangées. Hein.
Et espérons que ces 50 ans de distance, effectivement, donneront le recul nécessaire. Juste un mot pour terminer, Joël Calmette. Ça se termine comment ? Alors, ça se termine mal pour le Biafra, on a bien compris. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ça ? Est-ce qu'il y a une trace de quelque chose ?
Les traces sont assez effacées. Je suis allé, il se trouve, la semaine dernière, j'étais au Biafra et j'ai été sur la piste d'aéroport que vous avez empruntée à l'époque, la route qui est redevenue une route. Ils ont doublé les voies. Des bâtiments sont construits autour. La vie a repris, évidemment. Il y a un petit village autour, l'hôpital où étaient les médecins français est toujours un hôpital et s'est développé. Tout va pas si mal. Évidemment, la population biafraise, elle, se sent asservie par le Nord.
Toujours.
Il y a toujours des velléités, non de sécession, mais de revendications identitaires spécifiques. Mais ça, je pense que ça va durer longtemps. On a ça dans tous les pays, hein, des groupes culturels qui veulent s'émanciper.
Il reste les plus belles chansons, parce que les gens du Sud avaient des chansons superbes, beaucoup plus belles que les gens du Nord, que les Nigérians de Lagos. C'est comme les Républicains et les franquistes pendant la guerre.
Eh bien, voyez, vous aussi, vous étiez effectivement victime du syndrome de Stockholm, même la musique du Biafra par rapport à celle du Nord et celle du Nigeria. Merci beaucoup, merci mille fois à tous les deux. On va refermer la page 68 dans le monde en ce 22 mars, début de 68 en France également, qui occupera d'ailleurs le 18-20 de Claire Servagence. Ce sera demain. Un jour dans le monde continue avec Florence Paracuolo sous les radars, avec du foot féminin à Mogadiscio, avec Anthony Bélanger. Tiens, Anthony, oui. Notre édito au Pérou ce soir.
Oui, au Pérou pour assister à la chute de la maison Kouchinski, vous savez, le président. Mais ce n'est pas la première fois et c'est ça qu'on va voir.
Allez, à tout de suite et merci de nous écouter. Voici Khalid Swali, The Waze sur France Inter. Most of them gonna talk under, under.
most of them gon' fall. I know, I know. We gon' bet it all. I know. Oh, oh, oh. We gon' bet it all. I know. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna power girl. You've been running through my section all day. You've been running through my mind all day. All day, all day, all day, all day, yeah. Something in the way you move. Radiant beams casting vibrant blues. Pick me up when I fall down and out. Dust me off and show me all truth. Show me that I'll never fly alone. I fucked up so many times, but I still am you. How you do it like that? Carrying a brother is no easy on your back. I know most of them gon' talk. I know, I know. Most of them gon' fall. I know, I know. We gon' bet it all. I know. We gon' bet it all. I know. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know.
Et Swally The Waze sur France Inter. Voici Florence Paracuelos.
Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et Florence, sous les radars, vous nous emmenez d'abord dans un endroit d'où remontent finalement assez peu d'informations. On n'en parle pas beaucoup de Mogadiscio, capitale de la Somalie.
Nous sommes, Fabienne, sur un terrain de foot en synthétique. C'est l'AFP qui filme. De jeunes filles enlèvent leur long hijab au bord du terrain, en dessous des maillots de foot, des collants et des grandes chaussettes. Pas question de laisser apparaître un mollet dans ce pays musulman conservateur. Sur leur tête, des voiles ou des bonnets. Là aussi, pas question de laisser dépasser une mèche, alors que les islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, peuvent débarquer à tout moment. Rien qu'aujourd'hui, un attentat à la voiture piégée a fait 14 morts à Mogadiscio. Les Chebab exècrent le football comme tous les divertissements, encore plus évidemment quand ils sont pratiqués par des femmes. Malgré tout, ces filles mettent leurs crampons et elles y vont. Je joue au foot depuis 6 mois, mais ma famille ne le sait que depuis 2 mois. Je l'aurais caché parce qu'il ne m'aurait pas permis de jouer. Ma mère l'accepte désormais, mais pas le reste de ma famille. Ils ne sont pas contents, dit cette jeune fille de 19 ans. En large maillot vert et jaune au bord du terrain, des hommes les regardent intrigués, raconte l'AFP. Elles ont l'air nues, dit l'un d'entre eux. Elles ne devraient pas porter des vêtements aussi moulants, dit un autre. Des femmes en t-shirt, même large, même long, c'est presque une hérésie en Somalie. Les regards des autres, la peur de leur sécurité, la peur pour leur sécurité, c'est tout cela que ces 60 footballeuses de la capitale doivent surmonter. Et avec elle, un homme de 28 ans, fondateur du club, pionnier dans son pays. Malgré toutes ses contraintes, il rêve de faire de ses filles les premières joueuses somaliennes professionnelles.
Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, de Mogadiscio jusqu'à Washington, peut-être, Florence, avec un coup d'œil sur le niveau politique aux États-Unis, le niveau du débat.
Oui, écoutez, je vais essayer de vous la faire sans, parce que je n'ai pas ma feuille. L'imprimante a été facétieuse.
Donc ce sont des choses qui arrivent.
On connaît les tweets de Donald Trump, on connaît sa façon de parler à tout le monde. On peut se demander s'il n'a pas influencé toute la classe politique. À l'image de Joe Biden, il s'est exprimé devant des lycéens.
Ancien vice-président de Joe Biden.
Ancien vice-président de Barack Obama. Il s'est exprimé devant des étudiants mardi soir en Floride. Et voilà ce qu'il a dit de Donald Trump. Il y a un type qui est devenu président qui a dit un jour qu'il pouvait attraper les filles par n'importe où et qu'elles aimaient ça. On m'a demandé si je voulais débattre avec cet homme. J'ai dit non, évidemment. J'ai dit que si j'avais été en face de lui au lycée, je l'aurais fait venir derrière le gymnase pour lui casser la gueule. Voilà ce qu'a dit Joe Biden. On imagine que Trump a répliqué, et on a raison parce qu'il a répliqué. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que Joe Biden était mentalement, qu'il était mentalement et physiquement pas au point, et que en gros, si on le menaçait, il saurait le retrouver.
Voilà. Ouais. Il termine par arrête de menacer les gens, Joe. Et en termes de tarte à gueule à la récré, ça se pose là.
Voilà. Merci beaucoup. Le rapprochement entre les deux Corées qui se poursuit. Vous l'avez la feuille là ?
Je l'ai. Alors quand on veut faire de la diplomatie, Fabienne, sans diplomate. On l'a vu, il y a le sport, les JO le mois dernier, prélude au rapprochement historique entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. Il y a aussi la culture. Pour les Jeux, le Nord a envoyé une troupe d'artistes au Sud. Les billets se sont arrachés pour aller voir l'orchestre de Sam Ji-yeon avec ses 140 membres. Alors, on ne les entend pas, mais ensuite, il y a des dames qui chantent dans des robes de poupées sur fond d'orchestre symphonique avec des confettis tombant du ciel. C'est absolument kitschissime, Fabienne.
Très coréen.
Et c'est très, très différent de ce que verront les Nord-Coréens.
Exactement.
Qui auront le privilège. Ça, c'est Anthony Bélanger qui est en face et qui abonde. Les Nord-Coréens qui auront le privilège d'aller voir des artistes du Sud parce qu'en échange, Séoul va envoyer 160 artistes à Pyongyang pour une visite de 4 jours à la fin du mois. Des chanteurs du patrimoine sud-coréen et des girls band de K-pop. Sheyun du groupe Girls Generation sera du voyage et là, culturellement, on est très loin, mais alors très loin de l'orchestre symphonique et des poupées qui chantent. Chorégraphie, lacis, voiture américaine, lunettes dorées, gros bijoux, bling bling, banquette Louis XV, gros gâteau à la crème. Mmh. Voilà tout ce qu'on voit dans le clip de cette chanson en coréen et en anglais. Elle dit « Don't say no ». Et ça, effectivement, on peut supposer que les Nord-Coréens ne diraient pas non aux gros gâteaux à la crème, eux qui sont encore loin de manger à leur faim. C'est ce que dit le dernier rapport de l'ONU il y a 2 ans.
Voilà, donc échange
choc des cultures.
Échange de chansons et choc des cultures entre les deux Corées, Florence Paracuelos. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Anthony Bélanger, dans la place, dans Un jour dans le monde. Anthony, vous allez dans une direction qui n'a pas beaucoup ému la presse chez nous, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non.
Le Pérou, dont on ne parle que très rarement, vient de perdre son président, élu depuis moins de 2 ans, impliqué dans un scandale de corruption.
Et j'allais ajouter, encore un président péruvien affecté par un énième scandale de corruption. Quelque vous savez, la politique sud-américaine se caricature elle-même, et le Pérou, aujourd'hui, semble être une épure. qu'on en juge. L'ancien président Alejandro Toledo est l'objet d'un mandat d'arrêt international et la justice péruvienne va demander aux États-Unis son extradition. Son successeur, Alan Garcia, est lui aussi suspecté de corruption. Son successeur, Ollanta Humala, est déjà incarcéré en compagnie de son épouse, qui s'appelle Nadine Heredia, et devinez pour quelle raison ? Pour corruption. Voilà maintenant le tour de son placide successeur. Il s'appelle Pedro Pablo Kuczynski, dit PPK, qui a donc hier démissionné. Et pourquoi ? Encore un scandale de corruption avec cette particularité qu'il touche l'ensemble des forces politiques péruviennes et surtout qu'il est très simple à comprendre pour la population. Une seule et unique entreprise est concernée, elle s'appelle Odebrecht.
Et tiens, une entreprise brésilienne de travaux publics.
Qui, pour obtenir des contrats, a arrosé littéralement toute l'Amérique latine, de l'Équateur au Pérou, en passant par la Bolivie d'Evo Morales et le Venezuela de Nicolas Maduro. Mais au Pérou, la corruption s'est doublée d'une affaire de famille digne d'une telenovela. Qui voulait la perte de Pedro Pablo Kuczynski, vous avez compris, ce président mal élu, 50,1% des voix, un souffle, un rien fallot, ce président, et sans majorité au Parlement, eh bien sa principale opposante, évidemment une jeune femme qui s'appelle Keiko Fujimori, qui a aujourd'hui 42 ans, et qui n'est autre que la fille d'un ancien président péruvien, vous l'avez compris, un ancien président, Alberto Fujimori, qui lui aussi purgeait une peine de prison, mais avec une petite différence, pour crime contre l'humanité, jusqu'à ce que PKK, donc le président actuel, enfin jusqu'à hier, croit malin de lui accorder sa grâce présidentielle. C'était le jour de Noël 2017, il y a donc tout juste 3 mois. Je résume. Côté Fujimori, vous avez la fille qui est à la tête de l'opposition. Le père, ancien président, qui est désormais libre. Et même le fils, qui s'appelle Kenji, qui dispute l'héritage paternel à sa sœur. De l'autre, vous avez un président magnanime, mais affaibli. Et surtout seul.
Et en même temps, Anthony, tel que vous nous le présentez, la chute de l'actuel président avait l'air assez inéluctable.
Et c'est objectivement totalement désespérant, parce que quelle est l'alternative à cette débandade ? La convocation d'élections présidentielles et législatives que la famille Fujimori, père, fils et fille, remporterait inévitablement ? C'est-à-dire le retour d'un populisme revanchard. En Amérique latine, on ne connaît que trop bien sous le nom de caudillisme. Rappelons que Alberto Fujimori, donc le fameux père, le président qui était en prison jusqu'à il y a 3 mois, a été reconnu coupable d'avoir ordonné des massacres. Et il a aussi, en 1992, fermé le Parlement d'un décret. C'est d'autant plus écœurant que le Pérou va bien, au sens macroéconomique du terme. Son économie est en pleine croissance et c'est l'un des rares pays d'Amérique latine en qui les investisseurs ont relativement confiance, avec le Chili et la Bolivie. Et la Colombie. C'est aussi le seul des pays andins à avoir échappé au caudillisme de gauche qui a ruiné le Venezuela, noyé l'Équateur dans la crise politique et qui est en train d'enfoncer la Bolivie dans l'autoritarisme. Oui, vous avez bien entendu, même la Bolivie d'Evo Morales, ce président, souvenez-vous, qui portait des pulls tricotés par maman et qui refusait de dormir au palais présidentiel, eh bien 10 ans plus tard, Evo Morales ne voit vraiment pas pourquoi il devrait quitter le pouvoir après 2 mandats, alors même qu'il a perdu un référendum sur cette question.
Alors il nous reste une petite quinzaine de secondes, un peu plus. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'espoir pendant ce temps-là ?
Si on a un teint très ténu, mais je vous le livre tout de même. Les seules fois où un politique a fait du bien au Pérou, c'est lorsque ce politique est arrivé au pouvoir dans les pires circonstances et un peu par hasard. Eh bien, aujourd'hui, ce rôle incombe au vice-président Martín Vizcarra, qui est revenu d'urgence du Canada, où il était ambassadeur, pour devenir vendredi l'incongru 67e président du Pérou.
Anthony Bélanger, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le 18-20 continue, un peu bousculé par le mouvement de grève, mais on est là et on est bien là.